Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement à 10h04. Merci si vous êtes là depuis le début. Ça fait plaisir, surtout le lundi. Notre invitée, c'est la chanteuse Chimène Badi pour son nouvel album dans lequel elle revisite le répertoire d'Edith Piaf. Bonjour Sébastien Bordenave.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Et je salue Jean-Luc Lemoine, bonjour.
Bonjour très cher Philippe.
Jean-Luc, très cher, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, une chronique complètement gueude, hein, vous intéressez au phénomène un peu zarbi du week-end.
Oui Philippe, comme tous les samedis, je vous raconte. Hein, j'étais chez moi en train de faire un sudoku en slip devant ma télé, lorsque soudain, j'ai entendu...
Les jeunes se mobilisent contre la réforme des retraites.
Et tout de suite, je me suis dit, mais c'est quoi ces jeunes qui pensent déjà à leur retraite ? Le pire, c'est que ça m'a fait culpabiliser. Je me suis dit, bah, si moi aussi je m'étais bougé à leur âge, peut-être que je ne serais pas là, compter mes trimestres et faire des rubriques sur les manifestations chez Philippe Vandel. Moi, j'envisageais pas ma retraite quand j'étais jeune. J'étais trop occupé à faire du sport pour pouvoir m'habiller moulant ou trouver un nom à ma mobilette. Bon, j'ai essayé d'en savoir un peu plus sur LCI.
Mathieu Carman, vous êtes toujours dans ce cortège. Que vous disent les manifestants ?
Eh bien, ils sont tout simplement contre cette réforme.
Ça se tient. Les manifestants contre la réforme des retraites sont contre la réforme des retraites. C'est clair, c'est concis. C'est de l'info comme on aime. En zappant, je suis tombé sur l'envoyé spécial de BFM qui n'avait visiblement pas l'habitude de se frotter à cette partie méconnue de la population, les jeunes.
C'est vraiment le mot d'ordre de ces jeunes que vous apercevez derrière moi. Je suis assez surpris parce qu'ils sont vraiment assez jeunes. Hein. Moi, j'ai croisé jusqu'à présent des gens qui avaient 17, 18, 19 ans.
Oui, des jeunes. Hein, c'est assez rare dans notre pays. Parce que moi, je connais des jeunes plus proches de la soixantaine, hein, comme vous, Philippe. Vous êtes toujours dans le coup. Vous employez des mots de jeunes comme gueudin ou zarbi dans vos lancements. Vous vous asseyez à l'envers sur votre chaise pour avoir l'air cool. Et avant chaque culture média, vous dites dans le micro, c'est parti mon kiki. C'est ça la jeunesse. Alors que des vrais jeunes de 18 ans, c'est choquant. Au fur et à mesure que la journée avançait, ça devenait compliqué pour les reporters qui couvraient la manifestation. Et pour certains, comme Anthony Lebos, ils ne savaient plus à qui s'adresser.
Oui, la députée écologiste François Rogol qui marche au rythme en fait du camion qui...
Vous m'avez appelé.
J'ai dit François, pardon. Sandra Rogol.
Oui. Tour à tour, les journalistes sont allés recueillir les réactions d'hommes et de femmes politiques comme François Mélenchon, François Rousseau ou encore François Ruffin. Tiens, là, ça marchait. D'ailleurs, au passage, je ne sais pas si vous avez vu, Jean-Luc Mélenchon, il a bien profité d'avoir des jeunes autour de lui pour lancer des références bien de leur âge.
À bas Parcoursup ! Soyez maudits pour vouloir tout transformer en marchandise !
Il aurait dû s'arrêter à Parcoursup. Là, il les avait, on entendait la foule qui vibrait. Après, il s'est emballé, il a convoqué Jacques de Molay, le dernier des Templiers, et la malédiction des rois maudits, et franchement, c'était trop.
Maudits, soyez maudits.
Là, les jeunes, ouais. Ils t'écoutent plus, ils ont envie de t'exorciser. Alors, pour analyser cette journée de mobilisation des jeunes contre la réforme des retraites, BFM avait fait appel à une des plus grandes idoles des jeunes. Un mec qui représente la jeunesse dans ce qu'elle a de plus insouciant, Christophe Barbier.
Le cortège vient de passer devant l'ancien Barrio Latino, qui était un haut lieu de la nuit parisienne avec de la musique cubaine.
Ça, c'était vraiment important de le préciser. Parce que c'est ça aussi la jeunesse, la fête. Je peux vous dire qu'à l'époque, c'était pas le dernier pour payer sa tournée de shot, le Christophe. Hein. Cristobal Barbiero, el loco de la Havana, c'était son surnom. Du côté de CNews, ils n'ont pas attendu longtemps pour riposter. Ah oui, vous voulez jouer au con, les jeunes ? Eh bien, 14h, départ de la manif, 16h15, heure du goûter, nouveau débat.
Faut-il rétablir le service militaire ? Ça, c'est une idée.
Et bim, dans ta face, le jeune, ça t'apprendra. Hein ? Bon, bah tant pis, hein. J'ai finalement renoncé à trouver un représentant de la jeunesse crédible. Pourtant, à CNews, ils avaient le meilleur journaliste pour ça, sous la main. Olivier Benkemoun.
Qui est dans ce studio. Bonjour. Mais
regardez-le, hein, avec cette gouaille, ce teint parfait, cette peau de bébé. Enfin, Olivier Benkemoun, je devrais plutôt dire Olivier Le Rouge, hein, qui a même tenté de motiver Pascal Praud à venir manifester contre la réforme des retraites, avec des arguments imparables.
Les grands mouvements sociaux ont provoqué des grands baby-booms, parce qu'on se rend compte dans les manifs.
Si vous rencontrez Philippe Martinez ou Jean-Luc Mélenchon, c'est parce que vous avez envie de faire des enfants.
Moi aussi, j'ai failli me faire avoir. Moi qui pensais que vous étiez concerné par votre retraite, hein, alors qu'en fait, c'était juste pour pécho.
C'est l'amour.
Quand Jean-Luc Mélenchon a entendu ça, il était très choqué. Il a un message pour vous, Olivier.
Soyez maudits.
Rassurez-vous, il ne le pense pas. Il était juste un peu énervé.
Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoine. À demain, on vous retrouve chaque jour dans Historiquement Vôtre. Ça sera de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe. Et puis, vous serez en spectacle le 3 février en Corse. Je ne sais pas comment on prononce.
Bah, je pense que c'est Biguglia.
À Biguglia, en Corse.
quel plaisir de vous voir là-bas et même partout. Olivier Benkemoun.
Oui.
D'abord, bravo.
Soyez maudits.
Bravo, soyez maudits. Votre indispensable aujourd'hui.
Eh bien, on va parler de Corse. Voilà. On va parler d'un film qui s'appelle Le Clan.
Ah oui.
Qui est sorti la semaine dernière. Mais je vous poserai la question, est-ce qu'on a le droit d'être un humoriste avec des références régionales et d'arriver à convaincre la critique parisienne? Et je peux vous dire que ce n'est pas facile du tout.
Sébastien Bordonnard, j'ai exactement la même question. Votre indispensable ce matin.
Vous aimez le cheesecake?
Pas plus que ça, mais pas moins que ça.
On a fait des expériences sur des rats pour avoir du cheesecake. Ils sont prêts à accepter plein de chocs électriques pour avoir leur dose de cheesecake. Je crois que moi aussi. Ma BD du jour s'appelle Junk Food.
Dans un instant, Chimène Badi, on parle de son nouvel album dans lequel elle revisite le répertoire d'Edith Piaf. On écoute tout de suite sa version. Vous reconnaissez ce thème? Non, je ne regrette rien. C'est Chimène Badi sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour Chimène Badi.
Bonjour Philippe.
Chanteuse, le grand public vous avez découverte en 2002 dans Popstar. Quel chemin parcouru, 20 ans de carrière, 3,5 millions d'albums vendus, des collaborations avec Aznavour, Hallyday. Je cite ces grands noms car votre actu c'est ce nouvel album Chimène chante Piaf. Grosse tournée. Au fait, vous étiez hier soir sur la scène de l'Olympia.
Oui, c'est ça.
D'où le jogging. Vous m'avez dit en arrivant, je suis en jog, j'étais hier à l'Olympia.
Oui, parce que physiquement, là, il s'est passé quelque chose. D'abord, émotionnellement, c'était hyper fort. J'ai énormément vibré. L'Olympia était complet. Il y avait un monde fou. Et on était dans l'amour pur. C'était un moment extraordinaire. Ça m'a bouleversée. Je suis très, très heureuse d'avoir vécu ce moment.
Vous êtes plus qu'heureuse, vous avez les larmes aux yeux.
Ben ouais, parce que je suis hyper émue. Et hier, j'ai lutté contre cette émotion, justement, toute la journée, parce que je voulais pas me laisser embarquer par les pleurs et tout. Je voulais vivre vraiment ce moment. Je voulais pas le louper. Mm-hmm. J'ai fait beaucoup d'Olympia, moi, dans ma carrière. Mais pour la plupart, je suis passée à côté. Je m'en souviens pas. Il y avait trop de choses négatives sur lesquelles je faisais attention. J'aurais pas dû, mais j'étais jeune. Et du coup, il y a plein de moments que j'ai pas pu vivre comme ça. Et celui-là, je l'ai pris hier, quoi.
Par exemple, à quoi faisiez-vous attention qui ne le méritait pas ?
Eh ben, moi, ça a été un peu complexe à mes débuts. C'est-à-dire que on aimait bien ma voix, mais on me sabrait sur beaucoup d'autres choses, et notamment sur ce que je pouvais représenter physiquement et tout. Et c'est vrai que ça a été pour moi difficile parce que d'abord, je m'attendais pas à ça. Moi, je pensais que j'allais chanter, tout simplement, et qu'on aimerait ou non ma musique. Mais c'était plus compliqué que ça.
Et du pas coup, qu'on allait regarder comment vous étiez habillée,
oui,
votre silhouette.
Voilà, exactement. Donc du coup, ça a été un peu compliqué pour moi de trouver de l'équilibre au milieu de tout ça. Ça a été long. Et puis, ça m'a volé plein de moments sympas de ma carrière, quoi.
Piaf, ouais. Comment est né ce projet? Pourquoi cet album de reprise? Parce que c'est le monument.
Oui, complètement.
Et dans la chanson française, il n'y a pas plus haut qu'Edith Piaf.
Oui, pour moi, c'est...
Chez
c'est,
les filles.
Oui, oui, franchement, honnêtement. Ah oui, clairement. Elle est extraordinaire. Pourquoi il est né? Il est né parce qu'en fait, moi, je suis tombée amoureuse de cet artiste quand j'étais toute gamine. Mm-hmm. J'avais 4 ou 5 ans quand je l'ai découverte sur une cassette de ma mère. Et je l'ai mise dans mon Walkman et je découvre la chanson Mon Dieu. Et je suis bouleversée. Même si je capte pas vraiment ce qu'elle est en train de me raconter parce que je suis trop jeune pour palper le thème de l'œuvre que je suis en train d'entendre, qui est Mon Dieu. Je sens par contre qu'il se passe quelque chose de puissant, je me sens bouleversée, je sens le profond désespoir.
Attention, attention, retenez vos larmes parce que mon Dieu, je l'avais prévu.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi.
Oui, quand on a 4 ans, on ne comprend pas le sens de la chanson,
non.
Mais on ressent totalement l'émotion.
C'est ça,
et la
exactement.
Voix et la souffrance de cette femme.
Oui, et du coup, je ne vais plus jamais cesser de l'écouter. Je vais faire que ça et je vais grandir avec elle. Et elle va énormément m'inspirer, énormément.
Oui, mais comment avez-vous eu le courage de vous y attaquer? Je veux dire le sens de ma question.
Oui.
Il y a beaucoup, beaucoup de musiciens de rock dont l'idole ultime, c'est Bowie.
Oui.
Ils peuvent faire toutes les reprises, sauf Bowie. Mais vous, vous y allez.
J'y vais parce que je suis guidée par l'amour et l'affection à ce moment-là, en fait. Juste, je prends le temps. Ça fait plusieurs années que je réfléchissais à cet hommage. Mais pour moi, il était important que j'ai le parcours, mon propre parcours, que je puisse le vivre pour pouvoir incarner au mieux les œuvres d'Edith Piaf. Et lors du premier confinement, j'ai appelé mes producteurs de spectacle et je leur ai dit, voilà, moi j'ai envie de faire un hommage à Edith Piaf sur mon prochain spectacle. Est-ce que vous voulez me suivre? Ils ont dit OK. Et c'est comme ça que je suis partie à l'aventure et que Je suis allée à la rencontre de Charles Dumont, je suis allée à la rencontre de Catherine Glava qui est...
Charles
la...
Dumont, il faut dire qui c'est. C'est un
alors
des
Charles
auteurs
Dumont, c'est un des auteurs, mais bien sûr...
Qui a écrit
auteurs,
non, je ne regrette rien.
Non, je ne regrette rien, mon Dieu. Bien sûr, et qui était à l'Olympia hier, qui est venu... qui est venu assister à l'Olympia. Et en fait, voilà, on a partagé tout ça avec mes équipes qui m'ont accompagnée, en fait, dans cet hommage. Et voilà, il est né et je suis en train de vibrer, en fait. C'est-à-dire que émotionnellement, je suis un peu chaos parce que ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti autant. Puis j'ai pris un bloc d'amour hier et ça m'a fait plaisir qu'il y ait autant de monde qui soit là pour venir voir cet hommage à Édith Piaf à l'Olympia, là où elle, justement, elle a fait vibrer beaucoup de personnes.
On marque une courte pause avec Chimène Badi et on se reprend, boum, un bloc d'amour. A tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Chimène chante Piaf. Chimène Badi, c'est notre invitée. Des reprises d'Édith Piaf. Comment vous avez choisi les titres de l'album ?
Ah, c'est compliqué hein, de faire des choix, mais parce qu'il y en a beaucoup que... Elles sont toutes merveilleuses, mais en fait, j'ai choisi en fonction de mes coups de cœur, j'ai choisi en fonction de ce que je voulais raconter sur scène autour d'Édith Piaf, en fait. Donc, les chansons qui lui ressemblent. J'ai aussi fait le choix de me faire plaisir, puisque je connais le répertoire d'Édith Piaf quand même assez bien. J'avais envie de des Amandes un jour, par exemple, dans cet hommage, ou aussi de l'accordéoniste. Qu'on connaît peut-être un peu moins, en tout cas, pas pour le grand public.
Alors moi, l'impression que ça m'a fait, c'est en écoutant tout l'album, j'ai l'impression qu'il n'y avait que des tubes. Je me suis dit, mais elle a fait que des tubes, évidemment, c'est impossible.
Mais elle a fait que
mais
des tubes.
Mais quand même, là, il y a de quoi remplir un album entier
ah
rien
oui,
qu'avec
complètement,
des tubes.
Complètement. Qu'on passe par La Foule, ou par Pas d'âme, ou L'hymne à l'amour, ou Non, je ne regrette rien, ou L'homme à la moto, enfin, La vie en rose, c'est tout. C'est... On les connaît tous, ces chansons.
Vous venez d'où ?
Moi,
ouais.
Je viens d'où ? Du sud.
Ouais. Moi, je connaissais La vie en rose et j'aime aussi beaucoup La vie en rose. Il y a ce titre, L'homme à la moto. Ça démarre comme ça, on écoute.
Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait. Les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême. Et juste à l'intérieur, on lisait « Maman, je t'aime ».
Pendant que la chanson démarrait, Chimène Badi m'a dit « Celui-là, il est chaud ». Pourquoi
oui,
il est chaud ?
Oui, il est chaud parce que c'est le seul où la tonalité, c'est pas forcément la mienne. Pour toutes les ouais. autres œuvres d'Edith, ça a été vraiment très facile pour moi en termes de tonalité.
Ouais.
Mais celui-là, non.
Donc, pour une fois...
Mais j'ai décidé quand même de rester sur la même tonalité.
Alors, pour une fois, il y a enfin un artiste ou une artiste qui sort de sa zone de confort.
Oui, il faut.
J'en peux plus de cette expression où les gens ne sortent jamais, mais là, vous êtes sorti de votre
zone de confort.
Il fallait
parce que sinon, je perdais l'urgence. Si je baissais d'un demi-ton ou d'un ton pour me mettre plus à l'aise, je perdais l'urgence du titre, je perdais le grain de ma voix et ça m'embêtait.
Et l'énergie, c'est très respectueux du son d'Édith Piaf. Vous n'avez pas voulu revisiter, comme
surtout
c'est maintenant
pas.
Un peu la mode.
Mais surtout pas, jamais de la vie,
on
je fais ça.
On revisite tout.
Mais non,
on
pas,
revisite
pas,
les chanteurs et le Kiko Pruneau, tout est revisité
non,
maintenant.
Non, pas avec des œuvres pareilles. Mais ce serait Brel, ce serait pareil, je vous dirais la même chose. Aznavour, je vous dirais la même chose. C'est hors de question. Je voulais pour moi, effectivement, qu'on arrive à avoir des arrangements qui soient aujourd'hui proches de nos oreilles. Effectivement, mais je voulais surtout pas perdre l'ADN et l'essence des titres.
Bien
et
sûr.
Puis j'étais dans le respect de ses œuvres et c'est la force de Tiborg, le réalisateur de cet album hommage, qui a fait que tout d'un coup, quand on les entend, on se dit... Ouais, elles ont rajeuni, mais tout va bien.
Il n'y a pas de techno, il n'y a pas d'autotune.
Jamais de la vie.
Vous dites cette jolie phrase, pour chanter Édith Piaf, il ne faut surtout pas être radin sur la voix. J'adore l'expression, quel sens vous lui donnez ?
Bah en fait, c'est Édith Piaf, en plus, c'est quelqu'un qui donne sur scène, qui donnait énormément.
Ah oui.
Et elle ne se ménageait pas du tout. Et ben, c'est un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour un répertoire pareil, avec des œuvres pareilles, on ne peut pas y aller à demi-mesure, c'est à fond ou c'est pas la peine.
Il y a aussi ce titre, À quoi ça sert l'amour, duo avec Dany Briand, ça commence comme ça.
À quoi ça sert l'amour ? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer ?
L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça, qui vient on ne sait d'où. Et vous prend tout à coup.
Moi j'ai entendu dire que la... l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert?
Et je me trompe, ou Dany Briand, il a des petits accents d'Aznavour.
Oui, oui, dans le vibrato, il y a des choses, ça ressemble un petit peu, effectivement, ouais, c'est vrai. Je suis trop contente d'avoir pu le faire avec lui, je trouve que ça lui va vraiment bien, ce titre.
C'est né comment ce duo? C'était un pote à vous ou...
C'est un pote à moi, on a chanté ensemble justement sur son album hommage à Charles Aznavour. On s'est rencontrés sur cette chanson « Mourir d'aimer », on se connaissait déjà bien avant. Et en fait, quand j'ai réfléchi à ce duo « À quoi ça sert l'amour », je me suis dit... Et en plus, en termes d'arrangement, j'avais pensé à quelque chose qui ressemblait beaucoup au monde de
Dany.
Du coup, voilà, je lui ai demandé naturellement, et ben, il a dit oui.
Vous avez aussi rencontré Charles Dumont, ouais. Qui a écrit beaucoup de chansons de Piaf. Comment s'est passée la rencontre? Qu'est-ce que vous vous êtes dit?
La rencontre, elle est dingue. J'arrive, j'essaie de te faire vite. Je rentre, j'ouvre la porte de l'appartement. Il est assis, mais je ne vois que le bas de ses jambes. Je ne vois pas le reste. Et en fait, je suis saisie par l'émotion. J'arrive plus à faire un pas. Je me mets à pleurer. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression que j'étais déjà venue là, que j'allais revoir quelqu'un que je connaissais déjà. Enfin, c'était assez dingue. Hein. Il y a un côté un peu mystique comme ça, auquel moi, je crois beaucoup. Mmh. Et en fait, je rentre, je me pose à côté de lui. Et on va discuter, et ça va être un moment extraordinaire, fou. Il va se mettre au piano, ce fameux piano où il a proposé « Non, je ne regrette rien » à Edith Piaf.
C'est
si
même.
Je te promets, c'est le wow. même. Si c'était lunaire ce qui m'est arrivé. Mmh. Et je suis accoudée là et il commence à faire « Non, je ne regrette rien » au piano. Et en fait, ça sort pas, quoi. J'arrive même pas à chanter tellement c'est dingue ce qui est en train de m'arriver. Ça m'a bouleversée. Puis c'est un homme extraordinaire qui m'a dit des choses dingues. Et puis le fait qu'il me donne son aval comme ça et qu'il m'accompagne dans cet hommage, c'est merveilleux. Puis je pense que lui aussi, ça quelque part, ça l'a fait vibrer. Ça, c'est cool.
Et attendez, juste parce que les auditeurs disent, mais pourquoi elle ne voit que ses jambes?
Parce que quand je rentre, il est assis sur son fauteuil, mais je peux pas voir l'entièreté de son corps. Donc c'est en avançant que je vais voir. Donc en fait, je vois que le bas de son corps, et c'est dingue, il se passe un truc de fou, quoi.
On était dans un film. Vous restez avec nous, Chimène Badi, on va parler cinéma. Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Chimène chante Piaf, c'est Chimène Badi qui est notre invitée. Vous avez le temps d'aller au cinéma, Chimène Badi, ou en ce moment, de toute façon, il y a une tellement grosse tournée.
Non, là, ces derniers. Depuis le mois de juin, ça, je dois dire que je n'ai pas eu beaucoup de temps. Je suis ravie.
Vous êtes ravi d'entendre parler cinéma?
Oui.
Et moi aussi, je suis ravi, et surtout, je suis ravi d'entendre parler de cinéma. Olivier Benkemoun, Olivier, le film du jour, ce sera quoi? Il faut que je trouve la page.
C'est du cinéma corse, monsieur. C'est du cinéma corse.
Qu'est-ce que c'est que du
Donc
cinéma corse?
Donc, on va faire tout avec les accents. Vous allez prendre votre accent. Non. Suivez votre meilleur accent, Philippe.
Le film s'appelle Clan.
Oui.
Même pas Le Clan.
Si. Ah. Je crois que j'ai oublié le E. on peut pas tout réussir, tout, le lundi matin.
Le Clan, film d'Eric Fraticelli, vous le dites avec l'accent?
Eric Fraticelli, voilà. On l'avait repéré dans Mafiosa, la série de Canal+. Et on avait découvert un acteur dramatique, ce qui n'est pas sa vraie nature. Parce que sa vraie nature, à Pido, parce que tout le monde l'appelait le Pido, c'est l'humour. Enfin, en Corse, on l'appelle Pido, voilà, c'était son nom d'artiste. Donc l'humour. Alors, Le Clan, moi j'avoue que je suis allé ce week-end en traînant un peu la papate. Je dis, bon, comédie corse, voilà, ça va pas être très, très intello, et je vous sais que je suis un intello. Et c'est vrai que je suis pas. Bon, mais je me suis bien marré. Alors, la vérité, c'est que je me suis bien marré. Donc, je suis divisé, je suis en deux. Voilà, parce que passer 1h30 à une équipe de bandidos branquignolesques à ce point, ça m'a vraiment fait marrer. Mieux, ça fait du bien d'entendre des maquisards se balancer ce genre de choses.
Tu joues ou tu restes en prison?
Ah, je reste en prison.
Vous préférez pas payer les 5 000 et sortir?
Mais ça va. Je fais 6 ans de cabane ombrée. Je peux faire 3 tours au Monopoly.
La petite bande de mafieux qui joue au Monopoly, c'est plutôt du genre voyou à la petite semaine. Alors l'histoire, c'est ils vont décider d'enlever Sophie Marceau. Voilà, ils pensent obtenir une bonne rançon en enlevant Sophie Marceau. Sauf qu'évidemment, la star qu'ils vont enlever, c'est pas Sophie Marceau. D'ailleurs, c'est pas une star. C'est une jeune femme qui n'avait rien demandé, mais qui vont quand même garder avec eux à l'isolement au cas où. Mais le temps est long lorsqu'on attend le cas où. Voilà. D'où les parties de jeux de société qui vont révéler leur véritable science. La science corse, c'est la rigolade, c'est le goût du bon mot, c'est la chambrade, c'est les mauvaises blagues, c'est important de faire de mauvaises généralités, notamment. Exemple.
Les tennismans, ils gagnent des millions, leurs femmes, c'est des canons. Les pilotes de Formule 1, ils gagnent des millions, leurs femmes, c'est des canons. Alors que vous avez déjà vu les femmes de joueurs de ping-pong, vous?
Voilà, parfois on a. C'est une vraie réflexion corse. Parfois on atteint des sommets. C'est pas du haut diard, mais quand même, je trouve que ça fait un bien fou.
pas sur tout le monde. Hein. J'ai bien vu qu'une grande partie des critiques de cinéma parisien sont restées assez froides à l'humour d'Éric Fraticelli. On va pas se mentir, le film n'a pas été étouffé par la promotion. Déjà pour son premier film qui s'appelait Permis de construire, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une sorte de mépris en fait. Et pourtant, il y avait eu 600 000 tickets vendus. Pas qu'en Corse, hein, vous vous en doutez.
600 000, là, c'est pas mal. Hein,
c'est
lire.
Beaucoup, ouais. C'est bien. Et là, rebelote, je pense que le clan va avoir un succès inattendu. Pour tout vous dire, d'ailleurs, ils ont déjà eu le succès. Avant que ce soit un film, ça a été une pièce de théâtre qui a été jouée ici à Paris devant 100 000 spectateurs.
Pourquoi vous avez kidnappé cette femme ?
Kidnappé de quoi ? On est arrivé, elle était déjà assise sur la chaise.
Quoi ?
Moi, je vous conseille que vous avez intérêt de venir.
Voilà, en Corse, on fait des fautes de français. Mais ça fait partie du... Mais c'était pour la promo de la pièce de théâtre. Et les gens sont venus. Ce qui est sympa, c'est que Éric Fraticelli a repris ses copains du théâtre, les mêmes. Hein. Denis Braccini, Jean-François Perron et Philippe Corti.
Philippe Corti.
Dites, oh, Philippe Corti,
Ardisson.
Eh oui, Philippe Corti.
Tout de suite, le blind test, Philippe Corti.
Voilà, le DJ des Nuits Noires de Thierry Ardisson, visiblement des Nuits Noires de Philippe Vandel aussi, du mariage d'Yves Mourouzi, de la Scatola. Qui connaît la Scatola ?
Pas du
à Port-Camargue. Vous connaissez pas la Scatola ?
Non.
Eh ben moi, je connais la Scatola et je l'embrasse. Enfin, ça existait. Et c'est avec ses copains du théâtre.
C'est une personne ?
Non, c'est une boîte de nuit.
Le mec embrasse une boîte de nuit.
Mais ça sonnait trop, boîte de nuit.
Ouais, mais le gars embrasse une boîte de nuit. Il en est à ce degré.
Tellement bien. Moi, je suis de là-bas, donc. Et c'est avec ses copains du théâtre qu'il a fait son adaptation au cinéma. Sans une star, le seul élément nouveau, c'est l'élément enlevé, pour ainsi dire, joué par Joséphine Demeau.
Géographie.
Ça existe, ça.
Comment s'appellent les habitants de Hong Kong ?
Il faut tous les noms.
Voilà, mais vous n'avez pas compris la blague. On peut la remettre ? Julien, on va la remettre.
Non, mais c'est pas...
Non, on va la remettre.
Il est possible que je ne comprenne pas non plus.
Non, si,
vous avez compris la blague, Chimène ?
Non, non, allez, on remet.
Sébastien Bourdonnais, vous avez compris la blague ?
La deuxième fois, je
veux dire. Personne n'a compris la blague.
Géographie.
Ça existe, ça.
Comment s'appellent les habitants de Hong Kong ?
Il faut tous les noms.
Ah, ça y est.
Ah oui,
d'accord.
Okay.
D'accord, je comprends.
Il faut tous les noms.
Ok, j'ai compris, ça y est. Ok.
Il faut le voir deux fois. Ouais.
Eh ben c'est pour ça qu'ils vont faire plein d'entrées. Les gens vont aller le voir deux fois.
Vous avez la science de choisir un extrait.
Voilà. Tout à l'heure, dans le teaser, je posais la question de savoir si les comédiens à fort accent pouvaient toucher tout le monde. On va finir là-dessus parce qu'il me semble que oui, depuis les ch'tis. Mais quand même, on a du mal à les prendre au sérieux. Les humoristes régionaux qui font du cinéma, ils ont rarement accès aux grands médias. Vous avez le duo des Toulisains, les Chevaliers du Fiel, pour la télé nationale. Vraiment, c'est l'omerta, quoi. Hein, ils font rien. Les municipaux, leurs films, avaient quand même fait là, également 600 000 entrées. Personne n'en avait parlé. Le pire, je crois que c'est les Bodins. Ce sont des humoristes d'Indre-et-Loire. Leur film Les Bodins en Thaïlande, sorti en 2021, 1,6 million d'entrées.
C'est énorme, 1,6 million.
Voilà. Donc, on n'aime plus les accents. On n'aime plus les accents. Est-ce que vous chantez avec l'accent ? Est-ce que vous suivez votre accent ?
Moi, j'ai voilà. L'accent du Sud.
Elle chante l'avion rose.
Eh bien, c'est pour ça que ça me fait plaisir que vous soyez là pour cette chronique. Ça fait fuir les spectateurs, paraît-il. C'est faux. On voit bien que l'accent, c'est un outil de l'humour. Sans passer, c'est totalement crétin. Vive les accents, vive les Corses. Vive les Corses et vive le clan.
Ah, parce que c'est de la vraie et de la fausse moutarde.
Eh oui. C'est comme pour les cons, il y a les faux, il y a les vrais.
Voilà.
On peut le réécouter ?
Non.
Le clan, c'est en salle depuis mercredi dernier. Ce que vous dites, ça me rappelle quelque chose que disait Pierre Bénichoux à l'époque à ce micro, c'était l'après-midi. Il me disait, tu sais qu'elle s'est fait chier sur la gueule, c'était son mot, par toute la presse parisienne qui expliquait que c'était de la merde, que c'était facile, que c'était mauvais. Qui ?
Vous parlez de qui ?
Édith Piaf.
Et Berlin.
Voilà. Je pense tout le temps à ça quand je lis les papiers dans les
et
journaux parisiens. Il détestait Édith Piaf. Il disait qu'elle n'avait pas de talent, que c'était nul, c'est la facilité.
C'est vrai ce que tu dis.
Où sont tous ceux dont il nous disait que c'est des génies ? Ils ont disparu. Il reste Édith Piaf et Chimène Badi. Culture Média continue.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Chimène chante Piaf, c'est notre invité. Chimène Badi et Sébastien Bordonnave chantent la BD. C'est
un bon concept.
On peut dire ça, non ? Vous êtes fan de BD, Chimène ?
Je peux pas dire que je suis fan de BD, mais j'ai lu adolescent, enfin plutôt plus jeune, les Astérix, les Tintins, voilà, les choses comme ça. Mais le fanat dans la famille, c'était mon frère. Ouais.
BD publiée chez Casterman, on la doit à un journaliste, Arthur Croc. Joli nom.
C'est vrai.
Et une dessinatrice, comment vous prononcez ?
Emily Gleason.
Le titre donne le sujet, il s'appelle cet album Junk Food.
Oui, la couverture, on dirait un paquet de bonbons. Du coup, quand je l'ai reçu, je l'ai ouvert, j'ai mis la main dedans et je l'ai fini dans la foulée. Le sous-titre de Junk Food, c'est les dessous d'une Il est joli.
Il est magnifique.
Le sous-titre de la BD, c'est « Les dessous d'une addiction ». Et le parti pris de cette BD, eh ben, c'est de raconter l'histoire fictive, mais inspirée de faits bien réels, de Zazu, qui va à sa première réunion des « Food Addicts in Recovery Anonymous ». Bah, c'est comme les alcooliques anonymes, mais pour les troubles alimentaires. Ça existe aux États-Unis, mais ça existe aussi en France. Ça s'appelle les OA, les outre-mangeurs anonymes. Alors, comment Emily Gleason, la dessinatrice, a eu l'idée de cette BD ? Eh ben, elle nous le dit.
La jeunesse de ce projet est arrivée en 2016 quand j'ai reçu mes cousins mexicains à Strasbourg. Ils ont acheté 2 litres de coca, ils l'ont goûté, ils l'ont trouvé pas assez sucré à leur goût. Ils ont rajouté 2 cuillères de sucre devant moi et je suis tombée morte. Et c'est en lisant le livre de Bernard Pellegrin, Le sucre, l'autre poudre blanche, que j'ai décidé du jour au lendemain, après avoir été prise pour un mouton toute ma vie par les lobbies de l'agro-industrie alimentaire, qu'on pouvait avoir les mêmes symptômes d'addiction pour la clope, l'alcool, que pour le sucre.
Donc le coca, c'est pas le même dans tous les pays
c'est
du monde.
Exactement, c'est pas le même produit, pas le même sucre, pas le même dosage.
Incroyable, ouais, exactement. J'ignorais.
3 ans de travail en tout pour faire cette BD junk food, une BD avec un graphisme super dynamique, super acidulé, et c'est pas mal parce que il se trouve, Chimène, que à la maison je vis avec un jeune, et en la voyant cette BD, eh ben il était attiré comme si c'était un paquet de Michoco. Donc je trouve ça chouette que le message des dangers alimentaires soit sinon entendu, au moins lu avec plaisir par la jeune génération.
Et en même temps, on nous dit tous les jours qu'il vaut mieux éviter de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Qu'est-ce qu'on apprend concrètement dans cette BD ? Parce que ça, on le savait déjà, qu'il ne faut pas manger trop sucré.
Exactement. On apprend énormément de choses et surtout qu'il faut se méfier, comme de la peste, de cette arme de destruction massive qu'on appelle le cheesecake. En 2007, Serge...
La tête de Chimène.
Le cheesecake, oh mon Dieu.
Ah ouais ? Vas-y, raconte.
En 2007, Serge Ahmed, neurobiologiste, directeur de recherche au CNRS, prouve scientifiquement l'addiction au sucre. Avant, sa spécialité à ce monsieur, c'était la cocaïne. D'ailleurs, il s'était amusé à donner de la cocaïne à des rats et il observait que les rats à qui on proposait un choix, de la drogue ou du sucre, eh ben, ils prenaient à 90% du sucre. Et pire que le sucre, le cheesecake. Donner du cheesecake à des rats. En fait, le cheesecake, c'est 50% de sucre et 50% de gras. Vous donnez du cheesecake à des rats, alors ils vont en manger sans s'arrêter. Rapidement, ils refusent de manger autre chose et le rat dopé au cheesecake est même prêt à prendre plein de décharges électriques pour du cheesecake. Pourquoi ? Parce que dans la nature, eh ben en fait, il y a du gras, il y a du sucre, mais il n'y a pas de gras sucré. Ça n'existe pas. Oui. Ça provoque un bug chez eux. Et chez nous, les humains, on n'est pas loin de réagir pareil. Donc je pose la question, qui aurait l'idée destructrice de donner cet aliment gras sucré aux hommes ? Eh ben les hommes.
Les industries pensent leurs recettes au millimètre près pour doser un taux de sel, de sucre et de gras, ce qui s'appelle le bliss point. Ton cerveau devient fou, on redemande constamment, mais elle ne va pas saturer tes papilles au point que tu puisses t'arrêter. C'est en faisant des recherches, je pense même au bout de 2 mois que j'ai réalisé que c'était pas le sucre le problème, mais ce que l'humain en faisait. Je suis revenue à ce que je voulais faire, donc parler d'addiction et laisser la parole aux victimes, en faisant une docu-fiction parce que c'est ce qui me plaît le plus.
Le bliss point, en français le point de félicité, c'est un psychophysicien américain qui a découvert cette notion. Ce qui est amusant, c'est qu'il était aussi chercheur en marketing. La junk food est une drogue d'autant plus compliquée à combattre qu'elle est partout, qu'elle est légale, qu'elle est disponible tout le temps, dès le plus jeune âge. C'est aussi une BD déculpabilisante envers ceux qu'on stigmatise un peu facilement comme n'ayant aucune volonté, alors que tout est fait chimiquement pour qu'il n'en ait pas. Une BD contre plein d'idées reçues sur notre rapport au corps, au fait que nous ne sommes pas tous égaux au niveau des hormones. Et puis, un peu de modestie, n'oublions pas que dans les années 80, on avait une très relative conscience de l'addiction et du danger au tabac. Bref, c'est édifiant. C'est Junk Food de Emily Gleason et c'est publié chez Casterman.
Waouh, c'est impressionnant. Merci beaucoup Sébastien Bordenave. Ça vous parle ?
C'était l'addition. Hyper intéressant.
L'addiction au sucre ?
Ah oui, bien sûr que ça me parle. Et évidemment, moi j'ai été addict au sucre. Et pas que, et au gras aussi.
Quand vous étiez jeune ou quand vous étiez chanteuse ?
Plus tard, oui. Mais après, ça s'explique aussi.
Parce qu'il y a un phénomène de compensation. Vous avez vécu
exactement,
des années difficiles.
C'est
pas un mystère, vous l'avez raconté.
Ah oui, complètement. Et ça ne me dérange pas du tout d'en parler. Ouais. Effectivement, non, c'est aussi parce qu'il y avait un vide à combler. C'est plus profond que ça. Mais effectivement,
j'ai toujours une propension à me dénigrer, à m'abîmer. Et physiquement, je m'auto-sabotais.
Oui, c'est exactement ça. Mais j'ai décidé de penser à moi. Et ça fait plusieurs années maintenant.
Oui, mais pourtant, ça marchait pour vous. C'est ça qui est très étonnant.
Oui, ça marchait, mais il y avait plein d'autres choses à côté qui étaient très difficiles à vivre.
Qu'est-ce qui marchait pas ? Allongez-vous, on va prendre une heure.
Non, mais vous savez, quand vous arrivez, que ça pète et que vous êtes partout, eh ben on vous aime. mais on vous déteste aussi. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Mmh. Alors voilà.
Et encore, vous aviez la chance qu'il y a 20 ans, les réseaux sociaux n'existaient pas. Ils n'existaient pas. Oui, ils n'existaient même pas.
Non, ils n'existaient pas
présents comme ça.
Non.
Heureusement.
Non, ils n'existaient pas. Ouais, heureusement. Et puis après, j'ai une force de caractère. Je ne suis pas une, femme qui se laisse abattre comme ça. Je peux tomber un genou, mais pas les deux. Puis j'étais quand même bien entourée. Et puis voilà, il y a eu un moment où j'ai juste eu envie de m'occuper de moi, de prendre soin de moi. Et j'ai pris le temps de le faire aussi, parce qu'il faut avoir le temps. Mmh. Et moi, quand j'ai commencé, les 6 premières années, ça ne s'arrêtait pas. Mmh. Je rigole pas, c'est vraiment 6 ans où c'était du non-stop. J'avais pas d'existence.
Jour après jour.
Voilà, là j'ai une vie de femme, je prends soin de moi et j'ai envie de prendre soin de moi et c'est important.
Vous avez même le temps de faire du sport, parce que vous aimez le jogging.
Effectivement, et j'ai le temps de faire du sport. Oui, il tue mon jogging, arrête, parce qu'à tout le monde va penser qu'il
est énorme. Non, mais il est énorme, il est énorme. Il est pistache. Non,
il est pistache.
Il est de la tête aux pieds. Il est monstrueux, ce jogging. Il est magnifique, j'adore. Chimène Babi avec nous, c'est la dernière ligne droite de Culture Média. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Mon Dieu. Mon Dieu. Laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux.
Mon Dieu, c'est la version de Chimène Badi. Notre invitée, Chimène chante Piaf, c'est votre nouvel album. Vous reconnaissez en Édith Piaf ? Parce que vous aimiez cette chanson quand vous aviez 4 ans, évidemment sans en comprendre le sens,
ouais.
Sans savoir ce qu'était l'amour pour un homme, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a de Piaf en vous ? Pourquoi vous reconnaissez à ce point en elle ? Parce qu'elle a une vie, vous n'avez pas toujours une vie rose, mais elle a une vie totalement cabossée.
Ah non, mais elle a une vie dramatique, qui est semée de drames, de difficultés. Je me reconnais en elle par rapport à d'abord l'amour et la passion qu'elle a pour chanter, ça, c'est la preuve. Et pour donner au public, ça c'est hyper important de le dire. Je me retrouve en elle aussi par rapport à sa personnalité, c'est-à-dire ce truc de vouloir partager avec les autres, de ne pas vivre tout ça toute seule, ça ne m'intéresse pas, ça n'a pas d'intérêt. Je me reconnais en elle aussi par rapport à sa personnalité forte, c'est-à-dire que c'est une femme pour qui j'ai beaucoup de respect parce qu'elle n'a pas eu peur de dire non, elle n'a pas eu peur de s'imposer, elle n'a pas eu peur de faire confiance à ce qu'elle ressentait, à son intuition, pour aller au bout de ce qu'elle souhaitait faire. Et ça aussi, c'est fort de caractère, surtout à cette époque-là. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un livre de Hugues Vassal, qui est le dernier photographe d'Édith Piaf, et qui l'a photographiée pendant ses 8 dernières années. Et on la voit... souvent entourée d'hommes, elle toute petite, parce qu'elle était vraiment petite, mais on sent que c'est elle qui mène la barque, on sent que c'est elle qui décide, quoi. Et elle est imposante, et puis cette personnalité forte, et puis ce truc de ne jamais se dissocier de ses chansons, ça aussi. Mmh. C'est, chaque chanson est un bout de son histoire, un vécu ou quelque chose qu'elle nous raconte. Moi, c'est tout ça.
Bah tiens, justement, dans ce nouvel album, évidemment, il y a le titre « Je ne regrette rien », je suis obligée de vous poser la question. Qu'est-ce que vous regrettez de votre vie ?
Rien, justement. Et pour moi, le regret, c'est une seconde erreur. Donc,
même les souffrances professionnelles que vous avez un peu connues,
rien du tout. Vraiment
si c'était à refaire, vous referiez le même cycle.
Oui, effectivement, si je savais les choses, non. Mais si c'était à refaire, oui, je referais exactement la même chose. Parce que de toute façon, une vie, un parcours, ça nous forme, ça nous forge, ça nous apprend. Et effectivement, il y a eu des moments difficiles, mais ça m'a endurci. Et il y a eu des moments magnifiques qui m'ont fait vibrer. Mais non, je ne veux pas vivre dans le passé. Je pense que vivre dans le passé, c'est s'empêcher d'avancer. Et ça, ce n'est pas bien.
Alors, il n'y a pas que Piaf dans votre vie. Il y a aussi Chimène Badi. On nous a préparé un petit medley.
Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. C'est la vie qui nous prend dans son pouls. C'est le cœur qui avoue entre nous. Elle vit.
Quel effet ça fait quand vous écoutez vos anciens titres ?
Surtout quand il s'agit d'Entre nous et Je viens du Sud, qui sont quand même les chansons Entre nous, c'est la rencontre du public et moi. Moi, c'est comme ça que je ressens cette chanson. Parce que, bon, effectivement, c'est une histoire d'amour à la base. Mais moi, quand j'interprète ce titre, j'ai pas vécu grand-chose dans ma vie. Donc, je pense au public. Donc, pour moi, c'est l'histoire de la rencontre entre le public et moi. Donc, forcément, et je viens du Sud. Je viens du Sud, c'est juste leur chanson. Ils l'aiment par-dessus tout. Et si je la fais pas, je les rendrai très malheureux en scène. Donc, je m'amuse pas à faire ça. En fait, ça me rappelle juste que ça fait 20 ans que je vis une vie de dingue et que ça fait 20 ans que j'ai des gens qui m'accompagnent, qui sont là. Il y en a certains qui se sont barrés en cours de route, mais j'en ai retrouvé d'autres. Et en fait, ils sont là et ils m'accompagnent pour continuer à me permettre de m'exprimer sur scène. Quoi.
Vous serez en concert à Bergerac demain, c'est bien ça?
Oui, c'est bien
Lille
ça.
Lille le 27 janvier, Cagnes-sur-Mer le 1er février, Orly le 17, pas trop près des avions, Nogent le 18, La Ciotat le 21 mars, Les Garennes-Colombes le 18, il y aura Bondy, il y aura Le Canet, il y aura Aix-les-Bains, La Trinité-sur-Mer. Hier, l'Olympia, c'était complet. Ouais. Il y a deux dates parisiennes que j'ai oublié de noter, ça sera quel jour et où?
Alors, c'est le 27 et 28 octobre aux Folies Bergères, donc dans un peu moins d'un an.
Comment les concerts sont construits? Il y a une partie Piaf, une partie Chimène Badi, l'inverse? Ou alors, est-ce que vous avez tout mélangé avec les reprises et les titres à vous?
En fait, il y a vraiment un premier set de plusieurs titres autour des œuvres d'Edith Piaf. Et ensuite, je fais le pont pour arriver effectivement sur quelques-unes de mes chansons, ces chansons qui ont créé cette histoire.
Parce qu'il faut les tuer, il faut les rappeler, sinon les gens ne veulent pas partir.
Puis c'est nécessaire, parce que sinon le public aurait été triste. Je l'ai vu encore hier à l'Olympia, quand Entre nous est arrivé, ils étaient très heureux.
Vous dites que votre approche de la scène a changé, vous dites la scène n'est plus un ring de boxe, comme c'était à l'époque.
Oui, tout à fait.
À l'époque, vous montiez comme...
C'était un défouloir.
Comme pour bastonner.
Oui, c'était un défouloir, c'était l'endroit où je venais sortir toute ma colère, enfin toutes les émotions que j'ai en moi finalement, alors qu'aujourd'hui je viens juste, moi je viens donner quoi, je viens partager, et ça c'est un vrai plaisir.
Prochain projet, ça sera quoi? Vous le savez déjà ou vous êtes totalement focus sur cette tournée et sur Piaf?
Alors je pense à plein de choses, je vais pas vous mentir. Maintenant j'ai juste envie de savourer pour de vrai là toutes les dates qui arrivent, parce qu'on en a jusqu'en 2024.
Plein, j'ai pas tout cité, il y en a plein.
Et voilà, j'ai envie de vibrer, j'ai envie de chanter. J'ai envie de chanter Edith Piaf et c'est un vrai plaisir et c'est ça que je veux faire pour le moment.
Merci beaucoup Chimène Badi. Je rappelle donc ce nouvel album Chimène chante Piaf et cette grosse tournée dans toute la France qui va jusqu'en 2024, jusqu'au JO. Vous savez ce que vous allez faire en 2024, c'est dingo.
Ouais, c'est dingue.
Merci à tous. Nous on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On sera avec Yvan Le Bolloc pour le retour de la série culte Caméra Café qu'il a créé avec Bruno Solo. Il y aura aussi Bruno Solo, c'était il y a 20 ans. Il y aura une soirée anniversaire sur M6, on va en parler. Et puis le comédien Gérard Jugnot pour une pièce de théâtre, Le Jour du Kiwi, dans laquelle Jugnot joue pour la première fois que Jugnot, c'est-à-dire son fils Arthur. D'accord. Et Gérard, ils seront génial. Ensemble. Génial. Génial également, Julia Vignali, Mélanie Gomez, bien fait pour vous. Quel est le programme du jour?
Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
Écoute, on va parler d'un sujet qui n'est pas forcément réjouissant, mais on va essayer d'en parler calmement et avec sourire. C'est de la solitude, parce que beaucoup de gens souffrent de la solitude. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée des solitudes, mais parfois, cette solitude, elle est salutaire. Il y a de la bonne solitude, on va en parler, et puis aussi
C'est pas vrai.
Oui.
Il y a de la bonne solitude comme il y a du bon cholestérol.
Vous savez, c'est cette introspection là, qu'on cherche tout ce qui est à la mode aussi, la méditation, espèce de retour sur soi, être centré. Ça vous parle, la solitude?
Complètement. À Chimène Badi, ça lui parle.
Non, mais la solitude, il y a des moments où ça peut faire du bien.
Exactement. On la recherche. Il y en a même qui payent pour se retrouver tout seul. Non, mais c'est vrai. Il y a des stages de trucs comme ça.
Ah, c'est cher, quand même.
Donc c'est... bon, voilà, c'est à la mode.
Vous allez voir quelqu'un qui organise les stages?
Non, pas du tout. Mais...
Alors, c'est l'arnaque du siècle. Le mec, tu payes et dit mets-toi là, puis ne bouge plus. Hop, je ferme la porte. Je vais faire ça, moi, comme boulot d'été. Allez, bonne journée à l'écoute d'Europe 1. À demain, 9h. Salut.